Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode sur l'évangile de Matthieu. Aujourd'hui, nous étudions un chapitre particulier, le chapitre 24. Jésus y parle de la fin des temps et nous donne des informations prophétiques que tout le monde devrait connaître. Ce chapitre a déjà fait couler beaucoup d'encre. Il existe plusieurs interprétations différentes à ce sujet. En gros, je partage les positions de théologiens tels que Arnold Fruchtenbaum, Scofield, Roger Liebig et Arnaud Gebelein. Alors, allons-y. Je lis les deux premiers versets. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit: Voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Physiquement, cela s'est accompli en 70 après Jésus-Christ, lorsque les Romains ont envahi Jérusalem et ont brûlé et démoli le temple d'Hérode. Spirituellement, cette prophétie s'est accomplie avec la mort de Jésus. Il est le véritable temple de Dieu parmi les hommes. Je lis les prochains versets. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit: Prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant: C'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Voilà qui est central. Nous devons veiller à ce que personne ne nous trompe. Jésus revient trois fois sur ce point dans ce chapitre. Nous voyons actuellement comme de plus en plus de faux prophètes attirent les masses et comme les fausses doctrines s'infiltrent même dans les églises. Ces nouveaux enseignements sont trompeurs et peuvent modifier notre façon de penser de façon très dangereuse. Prochain verset. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce n'est pas encore la fin. Ici, Jésus parle du temps présent et nous prévient. Ce n'est pas encore la fin. Nous avons tous tendance à vouloir plaquer l'actualité mondiale sur les prophéties bibliques. Mais nous devons faire l'inverse, plaquer la parole de Dieu sur l'actualité. Sinon, chaque guerre, chaque pandémie nous fera croire que la fin du monde est arrivée. C'est ce genre d'erreur qui ridiculise la parole de Dieu aux yeux du monde. Dieu compare la fin des temps avec un processus d'accouchement. Celui-ci comporte de façon générale trois phases. La première phase est celle du travail, la deuxième phase est celle de la poussée et la troisième phase est la naissance du bébé. C'est une très belle image. Nous sommes dans la phase du travail. Le travail comporte des contractions de plus en plus rapprochées. Guerre, catastrophes naturelles, Covid, et j'en passe. Elles annoncent le bonheur d'une nouvelle vie. Mais après chaque contraction, la situation se détend, puis vient la prochaine contraction, souvent plus douloureuse que la précédente. La phase de la poussée correspond à la tribulation et finalement la naissance du bébé qui est la venue du Christ et qui viendra forcément en son temps. Dans le verset 7, Jésus nous dit: Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. On peut dire avec Roger Libby que les deux guerres mondiales ont véritablement déclenché les douleurs de l'accouchement. Les nations se font la guerre, mais Israël n'est pas encore dans le champ de feu majeur. Les famines, les pestes et les tremblements de terre s'accumulent. À mon sens, c'est ici, c'est-à-dire avant le début de la tribulation, qu'aura lieu l'enlèvement des croyants que notre Seigneur Jésus prendra à lui, entre le temps de travail dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui et le début de la tribulation qui vient. Pour mieux comprendre, je recommande à celles et à ceux d'entre vous qui comprennent l'allemand de lire le livre Handbuch der biblischen Prophetie d'Arnold Fruchtenbaum. Il a aussi publié de nombreux livres en anglais d'ailleurs. Nous arrivons donc dans le futur. Jésus parle maintenant de la tribulation qui durera 7 ans, comme l'a annoncé le prophète Daniel. Je vous lis les versets 9 à 14. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Fin de citation. Avec le début de la tribulation, une terrible persécution des Juifs commence. Les gens vont se trahir et se dénoncer les uns les autres. Les faux prophètes répandront des mensonges et sèmeront la confusion. Du fait que les chrétiens croyants ne sont plus présents puisqu'ils ont été enlevés, les forces obscures ont maintenant le champ libre. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Il ne peut s'agir ici du salut des enfants de Dieu parce que ça ne rentrerait pas du tout dans le cadre. Non, il s'agit de survivre aux horreurs de la tribulation. Quiconque survit aux 7 années de la tribulation sera sauvé de ses ennemis. La déclaration de Jésus selon laquelle l'évangile sera prêché dans le monde entier est également souvent mal interprétée, comme si Jésus devait revenir une fois que toutes les nations auraient été évangélisées. Ce n'est pas ce qu'il dit ici. Pendant la tribulation, les 144 000 juifs mentionnés dans Apocalypse 7 répandront l'évangile dans le monde entier. Ces juifs seront les missionnaires idéaux de cette époque pressée. Ils sont dispersés dans le monde entier, parlent d'innombrables langues et connaissent de nombreuses cultures. Et alors viendra la fin, dit Jésus. C'est-à-dire que c'est là que commence la deuxième et dernière partie de la tribulation, les trois dernières années et demie, également appelées la grande tribulation. Je vous lis les versets 15 à 28. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver ni au jour du sabbat. Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et il n'en aura plus jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici il est dans le désert, n'y allez pas. Voici il est dans les chambres, ne le croyez pas. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. Que signifie l'abomination de la désolation établie en lieu saint que Jésus nomme le début de la grande tribulation? En l'an 167, avant Jésus-Christ, le roi Antiochus IV Épiphane avait profané le temple de Jérusalem en faisant un lieu de culte de Zeus. C'était l'abomination de la désolation. Or, Épiphane était un précurseur, une préfiguration de l'Antéchrist. Daniel prophétise que l'abomination de la désolation se produira exactement à la moitié de la période de la tribulation. Lire Daniel 9, 27. D'ailleurs, Jésus y fait référence et dit aux disciples que lorsque cela se produira, les Juifs devront fuir immédiatement. À ce moment-là, c'est-à-dire 3 ans et demi après le début de la tribulation, l'Antéchrist rompra le contrat qu'il avait conclu avec Israël au début de la tribulation. La persécution des Juifs prendra alors d'un seul coup des proportions sans précédent. Jésus mentionne à nouveau les faux Christs qui apparaîtront. Nous savons que l'Antéchrist en fait partie puisqu'il prétendra être Dieu. Dans les versets 29 et 30 que je vais vous lire maintenant, Jésus parle de sa venue. C'est un événement aux proportions cosmiques. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira. La lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Voilà, la terre entière sombrera dans l'obscurité profonde. Et c'est là que le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel. Vous devez imaginer ça. Les ténèbres enveloppent la terre entière, pas seulement une partie du globe, mais tout. Les corps célestes s'écrasent autour de nous. Et soudain, une immense et aveuglante clarté apparaît. C'est la lumière de Dieu. Dans Matthieu 16, 27, nous avions lu « Car le Fils de l'homme viendra dans la gloire de son Père avec ses anges. » En fait, la création entière faillit périr de peur et d'étonnement. Les hommes et les bêtes tomberont sur leur face quand le Fils de Dieu apparaîtra. L'heure est venue. Nous poursuivons ici avec les versets 31 à 35. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus des quatre vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Les signes de la fin des temps doivent être reconnus de manière sobre et à l'appui des Écritures. Certains prétendent que l'humanité se détruira elle-même, mais ce n'est pas vrai. Jésus dit clairement que cette génération, c'est-à-dire l'humanité, ne passera pas avant que tout cela ne se produise. Ce n'est pas une légende. Des millions et des milliards de personnes s'arracheront littéralement les cheveux pour n'avoir pas voulu croire à la parole de Dieu. Jésus reviendra pour juger les vivants et les morts, comme le dit l'Écriture. Je lis maintenant les versets 36 à 42. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vînt et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Il existe ici deux interprétations de ces versets. Le premier dit qu'il s'agit du jugement, le second qu'il s'agit de l'avènement. Personnellement, je trouve la deuxième explication plus convaincante que la première. Jésus dit qu'à cette époque, les gens vivront normalement. Ils mangeront, boiront, se marieront, travailleront et soudain, l'un sera enlevé et l'autre sera laissé. Il ne peut s'agir du retour de Jésus pour le jugement, car alors plus rien, mais vraiment plus rien, ne sera normal du tout. Il s'agit de la venue de Jésus dans les airs pour ramener les rachetés à lui. Et personne, sauf Dieu au ciel, ne sait quand cela se produira. Ce qui suit maintenant est l'appel central à la vigilance. Je lis la dernière partie de cette section à partir du verset 43. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur devait venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture en temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ceci. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même « Mon maître tarde à venir », s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il n'y s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Et il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Jésus souligne encore et encore que chaque lettre de l'Écriture a déjà été ou sera encore accomplie. Nous devons être vigilants, c'est-à-dire persévérer dans l'étude de la Bible et dans la prière, sinon gare à nous. Restons proches de lui et accomplissons nos devoirs avec engagement et joie comme notre Seigneur nous le demande. Je vous invite à écouter cet épisode une deuxième fois car il est très riche en informations. Ne vous laissez surtout pas troubler par des interprétations populistes, tenez-vous-en à la parole. Jésus reviendra. Attendons-le avec impatience. Soyons prêts, pleins d'espoir et d'énergie. Ici, je vous dis au revoir et je vous souhaite une semaine bénie.